Classique avec David Abiker.
Franz-Olivier Gisbert est notre esprit libre de ce jeudi 7 mars. Il est 8h43. Franz, bonjour.
Bonjour David.
Un nom, une candidate aux élections européennes placée en 7e position sur la liste de la France Insoumise a retenu votre attention et elle va marquer l'actu très probablement. C'est Rima Hassan, une activiste pro-palestinienne, anti-Israël, qui est favorable à la suppression pure et simple de l'État d'Israël. C'est le choix de la France Insoumise en 7e position.
Oui, bah, les mots vous manquent, hein. On a envie de parler d'abjection, etc. Même ça n'a rien à voir avec cette personne. Je parle des idées qu'elle porte. Parce qu'il y a vraiment, apparemment, quelque chose de pourri maintenant dans l'extrême-gauche française qui, avec ce choix, laisse entendre à l'électorat islamiste, après lequel elle court, évidemment, qu'elle est pour la mort d'Israël, puisque Rima Hassan est pour la fin d'Israël. C'est ça, l'histoire. Je vais encore me faire insulter dans la fachosphère sur les réseaux sociaux parce que c'est vrai que l'extrême-gauche est très puissante là-dessus. Mais je pense qu'il faut dire tout simplement que LFI est passée maintenant du côté sombre. C'est le début, vous allez voir, ça va glisser, ça va aller de plus en plus vite. Il y a beaucoup d'électeurs à attraper avec ça, et ils n'hésitent pas. Ça s'appelle du cynisme.
Il y a peut-être aussi beaucoup d'électeurs à attraper à la France Insoumise qui aimeraient bien un parti de gauche qui lui rappelle le socialisme d'antan, peut-être.
Eh ben ça, il y a Raphaël Glucksmann, il est là pour ça.
Franz-Olivier Gisbert, on part aux États-Unis. Vous avez passé pas mal de temps. Vous connaissez bien ce pays. Paradoxe de cette élection présidentielle américaine. Aucune surprise sur les finalistes. On s'y attendait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Maintenant, ils sont face à face d'ici le 14 novembre, d'ici le 5 novembre, pardon. Donc, peu de surprises. Mais le paradoxe, c'est que l'enjeu est énorme pour l'Europe et le reste du monde.
Absolument. Alors on peut dire que la voie semble libre maintenant pour Trump, parce que d'abord, Trump il est mithridatisé, vous savez, c'est du nom du roi Mithridate VI, roi du pont et du Bosphore, qui absorbait des doses croissantes, enfin c'est la légende, de produits toxiques, de poisons, pour acquérir une résistance grandissante vis-à-vis d'eux. Bon, pourquoi je dis que le terrain est dégagé? Parce qu'il n'y a plus Nikki Haley, qui était quand même un problème, la rivale de Trump, qui s'est retirée, qui n'a pas fait d'énormes scores, mais qui a quand même récolté 89 délégués, c'est-à-dire 10 fois moins que Trump, qui est à 995. Bon, elle a jeté l'éponge, mais enfin, on peut dire qu'elle cochait toutes les cases. Fille d'immigrés d'Inde, des Sikhs, ancienne ambassadrice de l'ONU, ancienne gouverneure de Caroline du Sud, et puis dans les sondages, elle battait tout le monde.
Elle attendait aussi peut-être
Elle battait beaucoup plus facilement Biden que Trump.
Elle attendait aussi que Trump, peut-être par une décision de la Cour suprême qui n'a pas été prise, soit déclarée inéligible. Il y avait peut-être une fenêtre à ce moment-là, et je pense que c'est pour ça qu'elle a fait une campagne tardive.
Je suis pas sûr.
Non.
Non, je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que, de toute façon, cette vague Trump, depuis le début, rien ne peut l'arrêter. Depuis le début, je veux dire, depuis que Joe Biden a décidé stupidement de lancer des actions en justice contre lui l'année dernière par l'entremise de son ministre de la Justice. Il croyait, Biden, que Trump était un candidat moins dangereux que DeSantis ou que peut-être d'ailleurs Nikki Haley, mais qui était pas encore très haut dans les sondages à l'époque. Et il s'est dit, voilà, on va s'en prendre à Trump parce que de toute façon on va le finir.
Mais s'il était peu dangereux, pourquoi mobiliser l'appareil d'État au risque d'être critiqué pour cela?
Eh bien, parce que je pense que Biden a un peu trop écouté les médias qui croient ça, la gauche du Parti démocrate. Tous ces gens pensent que Trump, on peut le liquider avec des affaires. Des affaires de sexe, il y en a plein, hein, c'est incroyable. Dès qu'on ouvre la boîte de Pandore, il y a que ça. Les affaires financières, il y en a aussi beaucoup. Et ils ont pensé que, voilà, on allait éliminer Trump par les affaires. Ben justement, il en joue. Parce que ça lui permet de se présenter comme pas seulement la victimisation, c'est pas seulement la victimisation, mais elle montre aux électeurs américains qu'il est l'ennemi numéro un du système. Or, ces électeurs, une grande partie de ces électeurs aujourd'hui, eh ben ils vomissent le système. Ils veulent de l'ordre, ils veulent de la loi, ils veulent moins d'immigration, et donc tout ça fait que Trump, évidemment, est aujourd'hui le favori. même si Biden a quand même pas un si mauvais bilan économique, hein, et puis c'est pas fini, Biden. Bon, c'est vrai qu'il a, on peut dire qu'il a une mobilité réduite, hein, physiquement, mais enfin la tête fonctionne toujours très bien.
Mais il y a quand même des sacrées confusions. Hein.
Oui, mais ça, il a toujours été comme ça. Moi, je l'ai connu déjà il y a 30 ans ou 40 ans. Il disait des choses très bizarres. On se regardait, et ça, c'est une forme de dyslexie ou je ne sais pas. Moi, ce que je trouve effrayant, c'est vrai, que troublant, c'est sa façon de se déplacer, quoi. On voit très bien qu'il a peur de tomber en permanence, il doit avoir des vertiges. Bon, bref. Et ce qui est aujourd'hui, pourquoi ça nous angoisse tous, une éventuelle victoire de Trump, c'est pas joué encore, faut le répéter. Et ben, c'est simplement que il incarne aujourd'hui la tradition isolationniste des républicains. Ils n'ont pas toujours été isolationnistes. Hein. George W. Bush a fait une guerre dont on se souvient encore. Mais traditionnellement, c'est vrai qu'il y a une tradition, en tout cas très très forte chez les républicains, d'isolationnisme. Vous savez, en France, on disait plutôt la Corrèze que le Zambèze. Et ben les Trumpistes, ils disent le Maine avant l'Ukraine. C'est pourquoi ils bloquent toujours 60 milliards d'aides à l'Ukraine. Et c'est ce qui explique aujourd'hui l'inquiétude des dirigeants européens. Eh ben, je veux dire, ils ont raison.
L'inquiétude parce que de Macron, qui en
de
début
Macron
de semaine...
et des autres dirigeants européens.
Ils sont inquiets, mais ils sont pas d'accord entre eux. Et donc, c'est Emmanuel Macron qui mettait en garde mardi à Prague contre l'esprit de défaite. Il a sorti le mot lâcheté, donc il persiste et signe. J'avais une question sur cet esprit de défaite qui renvoie à un texte important d'un historien qui a été exécuté en 1944 en France. C'était l'historien Marc Bloch, il était résistant. Il avait publié un texte qui s'appelait « L'étrange défaite ». Est-ce que ce texte inspire Emmanuel Macron quand il évoque, lui, l'esprit de défaite ?
Ouais, je crois un peu. Les poutinolâtres, qui sont très nombreux en France, hein, nous disent, comme les pétainistes d'antan, d'ailleurs, qu'il faut tendre la main à Poutine, le pauvre Poutine, qui ne nous veut que du bien, comme il disait d'ailleurs à propos d'Hitler autrefois. Je ne compare pas, bien entendu, les deux, comparaison n'est pas raison. Mais bon, on peut dire aussi que, comme avec Hitler autrefois, il y a une attitude de soumission chez nos pétainistes d'aujourd'hui. Parce que et dans cette affaire, Macron est très courageux. Je crois qu'il faut le dire. J'ai dit d'ailleurs assez de mal de lui ces derniers temps pour le crier, même s'il le faut. Il est courageux parce qu'il dit exactement ce qu'il faut dire. Et comme vous l'avez bien dit, il s'appuie sur, une tradition intellectuelle française, et notamment ce livre « L'étrange défaite » dont il faut parler.
Allez-y.
Mais avant, je veux citer une phrase absolument géniale du général de Gaulle. Parce que dans ce moment-là, on peut dire que Macron est gaullien. Alors, ça n'empêche pas que il n'est pas du tout gaullien en matière de dette, avec la dette incontrôlée, ni en matière d'immigration, avec l'immigration incontrôlée, mais sur l'Ukraine, il est un peu gaullien. Écoutez de Gaulle. « Tout recul a pour effet de surexciter l'agresseur, de le pousser à redoubler sa pression et finalement précipiter et hâter son assaut. Les puissances occidentales n'ont de meilleurs moyens de préserver la paix que de rester droites et fermes. » Je répète, droites et fermes.
De Gaulle.
Sur ce plan, de Gaulle. Ouais. Et de Gaulle, c'est à propos, évidemment, du conflit Est-Ouest à l'époque. 61, c'était... Bon,
parlez-nous de l'étrange défaite.
Alors, justement, l'étrange défaite.
Parlez-nous de l'étrange défaite, ce texte de Marc Bloch qui semble inspirer un certain nombre
de plus en plus
d'élites en France. Ils y pensent, mais au moment de faire la démonstration du courage et de la fermeté face à Poutine, ils sont plus discrets.
Eh ben, je vais vous dire... ce texte, j'avoue que je le lis souvent, je lis pas tout. C'est un peu un fatras, c'est très touchant, parce que il a été fusillé par la Gestapo en 1944, c'est un résistant.
Il analyse les causes de la défaite de 40
voilà.
dans ce
et
bouquin.
C'est comme un testament, c'est présenté comme tel. Il sait qu'il risque de mourir, et finalement, bon, il a été rattrapé. Alors, les phrases sur la France sont juste incroyables. Je vais vous en citer quelques-unes, par exemple. « Notre faiblesse collective n'a été que la somme de nos faiblesses individuelles. » Hein, c'est-à-dire, il s'en prend un peu à l'esprit français. Vous savez, cet esprit français, d'ailleurs, que critiquait beaucoup Jules César dans la guerre des Gaules, quand il dit qu'on est lâche, vous voyez, qu'on fait beaucoup de musculation avant la bataille, mais que quand la bataille commence, il n'y a plus personne. Ça, c'est dans la guerre des Gaules. Hein, c'est... Bon, de Gaulle lui-même, d'ailleurs, général de Gaulle, disait des choses pas sympas sur nous. Il parlait de notre lâcheté, comparé, par exemple, aux Britanniques, qui trouvaient très courageux. Tout ça peut changer avec le temps. Et puis, des Allemands qui trouvaient travailleurs et consciencieux. Ce sont pas seulement des, comment dire, des clichés. Il y a quand même une espèce de tradition.
On n'ose plus parler du caractère national des pays.
Oui,
on n'ose plus. Parce qu'on n'ose plus les clichés, parce qu'on a peur d'une forme de stigmatisation, alors que les nations et les pays, ils ont un caractère national, les peuples ont un caractère.
Ça existe, le Gaulois réfractaire, et d'ailleurs, le Gaulois réfractaire, moi, personnellement, en tout cas, j'ai toujours trouvé extrêmement sympathique. Bon, bref. Ce qui est intéressant chez dans L'étrange défaite, c'est qu'on l'a mal lu. C'est-à-dire, moi, je le relis régulièrement. Je peux vous dire qu'on peut pas dire qu'il attaque les élites en bloc. C'est-à-dire, bon, il est très sévère évidemment pour les militaires, mais il faut pas en faire les boucs émissaires, dit-il, de L'étrange défaite, la débâcle totale de 1940, quand on s'est fait complètement vitrifié, littéralement par l'armée de d'Hitler. Et donc, il ne veut pas en faire des boucs émissaires. La haute bourgeoisie, non plus. Parce qu'il dit, bah oui, elle avait perdu tout pouvoir. D'ailleurs, elle s'en plaignait de pleurnicher. Et il est assez violent, en revanche, parce que c'est quelqu'un de gauche. C'est un historien. C'est l'un des fondateurs de l'école des Annales, autour de la revue des Annales. Et il est très violent contre les syndicalistes ouvriers. Et aussi contre les tenants de l'idéologie internationaliste et pacifiste, d'ailleurs, qui reviennent aujourd'hui en force. J'irais aussi, il y a quelque chose qui me frappe, c'est, ça revient assez souvent chez lui, c'est l'inculture des dirigeants. Il dénonce l'inculture des dirigeants. Ce qui ressort de ce livre, en fait, c'est que nos dirigeants devraient lire un peu plus souvent.
Ouais. Et pourtant, à l'époque, il disait les dirigeants politiques. En 1940,
apparemment, ça revient beaucoup dans son livre. Ils ne lisent pas assez. Et la culture, ça aide à tenir. Notamment, c'est un point important, qui est peut-être le point fondamental. Et c'est pour ça que j'aime Marc Bloch. C'est qu'il célèbre le patriotisme. Il est temps de revenir, de rallumer un peu la fibre patriotique. Et finalement, l'une de ses grandes phrases sur L'étrange défaite, c'est quelque chose a manqué de l'implacable héroïsme de la patrie en danger.
Franz-Olivier Gisbert citant Marc Bloch sur Radio Classique.
L'étrange défaite, c'est chez Folio.
Vous entendez, mon cher Franz, vous entendez le prélude du tombeau de Couperin de Maurice Ravel qui est né un 7 mars.
Ouais.
Et je vous engage à aller voir Boléro au cinéma d'Anne Fontaine avec Raphaël Personnaz dans le rôle de Ravel. Voilà, on va se quitter avec cette musique qui évoque le réveil du printemps. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous remercie, Franz.
À la semaine prochaine, David.
Merci beaucoup.